France Culture.
Réplique, Emmanuel Macron, quel bilan, avec Arthur Chevalier et Franz-Olivier Gisbert. Lécher, lâcher, lyncher. Cette règle d'or de la politique française, établie par Jean-François Kahn, semble être l'épitaphe d'un Emmanuel Macron en fin de règne, a écrit Eugénie Bastier dans une récente chronique du Figaro. En effet, ceux qui en 2017 étaient ses plus fervents soutiens se retournent maintenant contre le locataire de l'Élysée. Le charme a été rompu, la férocité lui succède. C'est le plus mauvais président de la Ve République, assure Alain Minc, l'un des premiers visiteurs du soir. Et les deux excellents journalistes que sont Nicolas Domnach et Maurice Safran le comparent même, dans un livre explosif, à l'empereur Néron. Après tant d'honneur, Emmanuel Macron mérite-t-il tant d'indignité? Son bilan est-il aussi mauvais, aussi catastrophique qu'on le dit partout? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Franz-Olivier Gisbert, qui après les trois volumes de son histoire intime de la Ve République, publie « Voyage dans la France d'avant », et Arthur Chevalier, qui prépare un livre sur Emmanuel Macron, auquel celui-ci a accepté de participer. La parole est d'abord à l'accusation. Vous qualifiez Macron de frivolet, Franz-Olivier Gisbert. Pourquoi et qu'est-ce que cela veut dire exactement?
C'est l'avantage des mots de vieux français qui ont disparu de la langue, c'est qu'il n'y a pas besoin d'expliquer parce qu'on sait ce que ça veut dire. Frivoler, c'est très simple, enfin, il n'y a pas besoin, ça va tout seul. Alors on retrouve ça dans les vieux dictionnaires, furtière, ménage, tous ces dictionnaires magnifiques que je relis de temps à autre. Et j'adore sortir ces mots-là parce que ça veut tout dire. Et je pourrais dire aussi acteur. Parce que c'est pas un président, en fait, c'est un acteur. Il joue au président, on le voit d'ailleurs en surjouant un peu comme on peut le faire dans des petits théâtres de lycée, avec des effets de voix qui sont pas toujours très heureux. Après, moi, je n'ai jamais été macroniste, donc c'est simple. Puis je ne participe pas au lynchage, j'aime pas les lynchages. Mais si on fait le bilan de manière un peu objective, moi, quand j'ai commencé ma série de l'histoire intime de la Ve République, en trois tomes, c'est beaucoup, beaucoup de pages et beaucoup, beaucoup de travail, j'ai regardé, franchement, à l'arrivée, je suis plutôt d'accord avec le diagnostic d'Alain Minc, c'est le plus mauvais président de la Ve. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je regardais les précédents, que j'avais beaucoup critiqué à l'époque, j'avais beaucoup critiqué la politique économique de François Mitterrand en 1981, j'étais à l'époque au Nouvel Observateur, et puis j'avais aussi pas mal critiqué Jacques Chirac, à l'époque j'étais d'ailleurs au Figaro, et puis après, quand j'étais au Point, j'avais critiqué très violemment Nicolas Sarkozy, et puis aussi François Hollande. Et c'est vrai qu'en revoyant, en les comparant par rapport à ce qui était fait depuis 2017, je révisais mon jugement sur eux. C'est-à-dire, je disais, mais non, il peut y avoir pire. Pourquoi il y a pire? C'est très simple. C'est le bilan, tout simplement, ce sont les chiffres. Moi, je suis vraiment primaire, je regarde. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez la dette française, plus de 3 000 milliards, et que nous sommes à 1 200 milliards, et qu'il faudra payer en 2029 la charge de la dette, c'est pas le remboursement de la dette. Attention, c'est juste la charge, le remboursement des intérêts, simplement, à des pays très importants, comme le Qatar et la Chine, devant lesquels nous sommes obligés de nous aplatir aujourd'hui. Bon, ce sera 100 milliards à payer à partir de 2029, juste pour, je le répète, les intérêts de la dette. Bon, il a tout laissé filer, tout, vous regardez bien, l'autorité, l'immigration, tout, tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de président. Où y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Alors, il parle beaucoup, c'est vrai, il occupe le terrain. Nous avons élu quelqu'un qui n'était pas qualifié. Vous voyez, si je voulais résumer les trois tomes de l'histoire intime, ce serait comment on en est arrivé là. Eh bien, je vais vous dire, lui, c'est vraiment, il arrive à la fin et il met les clous dans le cercueil. Alors après, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la France est finie. Mais c'est pas l'homme qu'il fallait.
Eh bien, dis donc, le diagnostic est sévère. François Hollande dit d'Emmanuel Macron que c'est une intelligence sans pensée. Alors, que répondez-vous à tout cela, Arthur Chevalier, vous qui, sans être forcément un intime, fréquentez beaucoup le président, Arthur Chevalier?
Disons que moi, j'ai jamais été macroniste non plus. Quand il a été élu, j'avais à peine 30 ans, quoi. Tout ça m'a pas beaucoup intéressé, quoi. J'étais trop occupé à entrer dans la vie, la mienne, entre guillemets, pour m'intéresser à la politique. Donc, j'ai fait pas trop attention au début d'Emmanuel Macron. J'y suis arrivé il y a 3 ans, quand on a commencé, entre guillemets, à travailler ensemble, notamment pour ce livre qui est consacré à son rapport à l'histoire de France et à la mémoire. Et ce que je trouve, c'est pour ça que je suis un peu étonné, connaissant les convictions de François-Olivier Gisbert sur la France, qui sont sérieuses et conséquentes, du jugement très sévère que vous portez, puisque moi, ce qui me frappe énormément chez Emmanuel Macron, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il combat très naturellement cette société d'ironie dans laquelle nous vivons. Je m'explique, c'est-à-dire que je trouve que la France ressemble beaucoup à ce qu'était l'Autriche-Hongrie au début du XXe siècle et qu'a décrit Josef Roth dans La Marche de Radetzky, qu'a décrit aussi à sa façon Musil dans L'Homme sans qualité, c'est-à-dire où on ricanait de tout ce qui était officiel et prestigieux, genre l'empereur et son chapeau à plumer, voilà, donc on ne croyait plus en rien. Donc d'une certaine façon, la société d'ironie précédait la chute effective de l'Empire austro-hongrois qui allait se produire naturellement à la fin de la Première Guerre mondiale. Et je trouve que nous vivons dans cette société où on se moque de tout ce qui est officiel, tout ce qui est censé maintenir artificiellement ce pays. Emmanuel Macron n'a pas ça du tout, et ça a commencé par une chose très concrète. J'étais commissaire d'une exposition pour le Grand Palais consacrée à Napoléon, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Cette exposition a été lancée, elle était d'ampleur, elle était coûteuse, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, au bout de quelques mois, il y a eu une certaine frilosité dans les équipes. On racontait qu'au cabinet de la ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot, des gens étaient contre. Et on se dirigeait vers ce truc bien français où tout à coup, on ne sait pas quoi, une sorte de bureaucratie invisible veut tuer le projet. Et donc, ce que j'ai fait, ne connaissant quasiment personne, en fait, en réalité, j'ai été me plaindre. D'abord à Matignon, à l'époque c'était Jean Castex le Premier ministre, auprès de son conseiller culture avec qui j'avais été mis en contact vaguement, j'avais envoyé un mail, je l'ai vu, il m'a dit « faut en parler à l'Élysée ». Donc j'ai envoyé un mail au conseiller mémoire du président, Bruno Roger Petit, en expliquant ce qui se passait, en disant « voilà, je fais cette exposition, c'est important, mais on met des bâtons dans les roues parce qu'apparemment il y a des gens qui n'en veulent pas ». Ben, j'ai été reçu, on m'a répondu très spontanément, à déjeuner, j'avais jamais mis les pieds à l'Élysée de ma vie, ou oui, je crois jamais, j'ai déjeuné, on m'a dit « quel est le problème ?», j'ai tout raconté. On m'a dit « Ok, je fais une note au chef ». Voilà, la note est partie. J'ai revu le cabinet du président, quoi, 15 jours après. On m'a dit « Voilà, c'est terminé. Le président a dit que cette exposition aurait lieu et vous avez son soutien ». Emmanuel Macron lui-même a été jusqu'au bout de ses célébrations du bicentenaire, puisqu'il a quand même fait un discours sur Napoléon Bonaparte qu'aucun de ses prédécesseurs n'a osé faire. Donc, moi, j'étais très frappé par ce président qui, tout à coup, vient aider un garçon de 29 ans, qui est un nobody, pour le dire vulgairement, dans son exposition Napoléon, parce qu'en fait, il s'agit de la France. À partir de là, nous avons commencé à discuter, et puis il s'est amusé à me trimballer dans certains déplacements, les 80 ans en Normandie, et j'ai découvert un individu qui avait un rapport très conséquent par rapport à ce qu'était la mémoire de la France, et surtout, j'insiste là-dessus, sa continuité. Puisque je pense que le seul point sur lequel on peut tous être d'accord ici, c'est que la seule qualité réelle de la France, celle qu'on ne peut pas contester, c'est que c'est un vieux pays. Avec l'Angleterre, c'est le plus vieux pays d'Europe en réalité. Et Emmanuel Macron, je pense comme ses prédécesseurs, sa première mission, c'est que le pays doit continuer. C'est pas une mince affaire, les pays disparaissent aussi. Et ça passe évidemment par un rapport, à mon avis, à l'histoire qui est très prononcé, mais à sa façon. Son rapport à l'histoire ne rentre pas dans des cases, mais c'est une chose très sérieuse. Et je voudrais juste répondre à une chose qu'a dit Franz, qui me passionne chez Emmanuel Macron, c'est la théâtralité. Vous avez dit jouer à être président. C'est intéressant parce que déjà, il y aurait beaucoup à dire sur l'importance de la théâtralité dans l'exercice du pouvoir en France, où la fonction exécutive a quand même une importance transcendantale. Emmanuel Macron, à mon avis, a investi la théâtralité dans le pouvoir bien plus que ses prédécesseurs, mais pour lui, c'est un mode de gouvernement et pas une frivolité.
Bon, alors, est-ce que vous êtes convaincu, François-Olivier Gisbert, par justement cette volonté qu'aurait Macron de continuer l'histoire de France, de l'avoir persévéré dans son être, une histoire qui ne remonte pas à la Révolution?
Ce que disait Arthur Chevalier était tout à fait convaincant. C'est une histoire personnelle et je la crois volontiers. Mais moi, je voudrais dépasser ce qu'il dit. Parce que, par exemple, sa critique de la France de l'ironie, Là, ça rejoint quelque chose qui m'avait beaucoup choqué dans les déclarations de Mme Macron. Il y en a beaucoup qui m'ont choqué. D'ailleurs, je pourrais en citer beaucoup, parce qu'il y en a. Je commence par simplement celle. Il n'y a pas de culture française.
Oui, il n'y a pas de culture française. Mais ça, c'est une... Il y a une culture en France, oui, et elle est diverse.
Elle est diverse. Bon.
C'était ça.
Ça, c'est une déclaration idiote. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, pour moi, la culture française, justement, c'est l'ironie. L'ironie, c'est pas seulement Charlie Hebdo. L'ironie, ça commence avec Rabelais. Et puis, vous voyez très bien qu'il y a une continuité. Quels sont les grands écrivains? Quel est le plus grand auteur français? Tout le monde le sait. C'est un monument international avec Homère et avec Shakespeare. C'est Molière. Et Molière, c'est l'ironie. Il n'a fait que ça. Et puis ensuite, vous avez Voltaire. Et puis après, on va continuer.
Oui, non, c'est ça, la culture française. Mais est-ce qu'il n'y a pas... un risque pour l'ironie de basculer dans le ricanement. Vous êtes un grand journaliste, mais savez aussi que beaucoup de journalistes ricanent.
Bien sûr, on ricane. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas le mot qui a été employé par Arthur Chevalier. Il a parlé de l'ironie, oui. Et le président était choqué par l'ironie. Moi, je pense que l'ironie, c'est-à-dire lui-même, d'ailleurs, s'en plaignait une autre fois, vous souvenez, avec sa formule de Gaulois réfractaire. Là, il a un peu changé parce qu'il a traité les Français l'autre jour de moutons. Bon, je veux bien. Mais si vous voulez, le vrai sujet, c'est ça. C'est-à-dire, là, quand un président de la République dit il n'y a pas de culture française, alors qu'il y a une ligne continue, si vous regardez bien. Rabelais, j'ai dit Molière, Montesquieu, Voltaire, Marcel Aimé, je peux continuer, Yasmina Reza, enfin on peut aller très loin, Michel Houellebecq aujourd'hui, s'il y a une continuité, et c'est quand vous regardez la culture, à part l'Himalaya, qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est Victor Hugo, qui n'est pas du tout lui, alors pour le coup dans l'ironie. Et alors après, vous m'avez aussi surpris quand vous avez parlé de l'histoire. Je suis d'accord sur un point important, c'est qu'il a fait beaucoup pour le patrimoine. Napoléon fait partie de ce patrimoine, bien entendu, comme François Ier, etc. On est tous d'accord là-dessus. Mais sur l'histoire, là, à mon avis, il y a un problème d'inculture. D'ailleurs, quand on lit Marc Bloch, Étrange défaite, on a l'impression de lire ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus d'histoire. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la preuve par quatre, cette déclaration inouïe avant son élection en 2017, quand il dit que il parle de crime contre l'humanité à propos de la colonisation. Il dit ça en Algérie, bien entendu, pour faire plaisir aux Algériens. Mais je veux dire, ce n'est pas sérieux. Un président de la République ne doit pas dire ça, tout simplement, parce qu'il doit avoir un peu de notion historique. Hein, c'est-à-dire, l'Algérie a été colonisée, vous le savez très bien, par les Arabes au 7e siècle, parce que l'Algérie, au départ, ce sont les Berbères, n'oubliez jamais, c'est-à-dire les Kabyles, les Mozabites, et d'ailleurs, De Gaulle, qui lui avait une culture historique, ne cessait de le rappeler, parlait des Touaregs, des Mozabites, etc. Les Arabes n'aiment pas qu'on se les cite, parce qu'évidemment, ce sont eux les colonisateurs. Mais l'Algérie est aussi colonisée par les Ottomans, par les Égyptiens, par les Vandales, qui ont d'ailleurs essayé de coloniser la France. Bon, les Vandales qui venaient de Germanie. Donc, si vous voulez, la colonisation, c'est un phénomène très ancien. Et je veux dire, tout le monde a colonisé tout le monde. Et la France elle-même a été colonisée par les Romains. Et on ne s'en plaint pas. On ne demande pas aujourd'hui. Je veux dire, quand on fait semblant, comme l'a fait le président, de parler de... Oui, on doit... Comment dire? Il y a des dédommagements à payer à ces pays-là. Il n'y en a pas. Nous avons nous-mêmes été colonisés par les Francs qui venaient de Germanie. On ne demande pas de dédommagement aux Germains. On ne demande pas de dédommagement aux Italiens qui sont les héritiers des Romains. Tout ça est un peu infantile. Je veux dire, on a le sentiment très souvent quand le président de la République parle qu'il n'y a pas d'histoire. Vous voyez,
il n'y a pas d'histoire.
Il y a du patrimoine. Il y a Napoléon, effectivement. Il y a Jeanne d'Arc, peut-être. Mais il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a pas d'histoire. Alors, Arthur Chevalier.
Alors, je vais répondre point par point. Bon, déjà, sur il n'y a pas de culture française, vous avez complété la citation, ça veut dire il n'y a pas de culture par essence française. On pourrait gloser sur le sens que ça, bon.
Oui, mais je suis désolé, c'est faux. Il y a une culture française, c'est l'ironie, et il y a une culture allemande.
Pas seulement l'ironie,
je
ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de culture française. Vraiment, c'est sûrement pas moi qui suis historien de Napoléon, pour le coup, donc vraiment pas.
Bravo.
Deuxième point, sur le crime contre l'humanité qui est la colonisation, je suis d'accord avec vous, la colonisation n'est pas un fait français, c'est un fait de l'humanité. L'impérialisme est un cycle, ça n'est pas un État. Chaque pays en situation de domination a tendance à vouloir faire ça et tous les pays l'ont fait, donc c'est un jeu à somme nulle. Pour autant, dire que la colonisation en tant que telle est un crime, ça ne me choque pas ontologiquement, puisque je pense qu'elle l'est de tout temps.
Ah bah bien sûr, voilà, on est contre.
En tant que telle, l'expression ne me...
On est contre.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Et d'ailleurs, en 1885, Clémenceau a parlé de la colonisation à peu près en les termes d'Emmanuel Macron.
Pas quasiment. Crime contre l'humanité, c'est un...
Oui, mais c'est un mot très contemporain. Mais voilà.
Oui, oui, voilà.
Sur l'histoire, alors...
C'est la démagogie, disons.
Alors, puisque vous dites que, après tout, ce qui compte pour un président, malgré tout, c'est ce qu'on dit aussi et ce qu'on fait. Je remarque quand même que... Si vous prenez par exemple, bon, déjà il y a eu un tournant hein, dans la politique mémorielle de Macron, c'est son second mandat. Je ne sais pas pourquoi, ça, je n'ai pas eu d'explication. Il a senti à sa façon que la France avait besoin d'un retour patrimonial, d'identité. Donc là, il y a eu un réarmement patrimonial dans ses discours et dans la lecture mémorielle qu'il fait de la France. J'en veux pour preuve, par exemple, un discours où j'étais, puisque c'était pendant les 80 ans de la commémoration du débarquement à Bayeux, qui se voulait évidemment un miroir au discours qu'avait fait le général de Gaulle sur la restauration de la souveraineté française à Bayeux après le départ des Alliés, enfin le départ espéré des Alliés. Ce discours, il faut quand même écouter ce qu'a dit le président de la République ce jour-là. C'est-à-dire qu'il a parlé de France millénaire, il a parlé de France charnelle. À Notre-Dame de Paris, il a parlé de Saint-Louis, d'Henri IV, de Louis XIV. On ne peut pas partir du principe que ces mots sont vains. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une définition de la France, c'est-à-dire que ça veut dire que la France commence avant la Révolution française.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà, et c'est pas un acte neutre. Voilà.
Non, la République une et indivisible, notre royaume de France, disait Péguy. Vous dites que Emmanuel Macron s'inscrit dans cette lignée. Mais là, je voudrais vous lire une citation qui date du tout début du premier mandat, qui montre quand même que la vision inaugurale d'Emmanuel Macron est économique avant d'être identitaire. Il me semble, si le communautarisme, notamment religieux, a prospéré, c'est bien sur les ruines de nos politiques économiques et sociales. La société statutaire sans perspective de mobilité a créé du désespoir social. Donc il faut fluidifier le marché du travail, ubériser l'économie pour résoudre les problèmes de la France. Sauf que effectivement, il y a un choc civilisationnel en France qui n'est pas soluble dans l'économie. Et on le sent beaucoup aujourd'hui avec cette angoisse existentielle des Français dont il me semble que Emmanuel Macron n'a pas vraiment tenu compte et qui était exprimé de manière prémonitoire par Edgar Quinet quand il a dit « Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce qui le faisait aimer ». Beaucoup de Français éprouvent cela. Il me semble que Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs n'en ont pas tenu compte. Donc c'est un peu contradictoire avec cette volonté de s'inscrire dans la continuité française, alors que le droit fondamental à la continuité historique est aujourd'hui menacé. Voilà, je livre cette réflexion à votre sagacité, à l'un et à l'autre, François-Olivier Gisbert.
On peut dire que il a beaucoup cédé à l'espèce d'idéologie anglo-saxonne qu'on appelle le communautarisme. Et moi, c'est un des reproches que je lui fais. Comme s'il avait peur. Et c'est-à-dire, l'idée que l'économie va tout résoudre, c'est une idée stupide encore. Ce qui résout les choses, ce sont des lois, ce sont de temps en temps aussi des discours forts qu'il aurait pu tenir. Il n'a jamais osé faire le grand discours sur la laïcité que Chirac avait déjà fait. D'ailleurs, il aurait pu le reprendre le même parce que c'est un discours absolument formidable. À chaque fois que je l'ai lu plusieurs fois, je suis absolument stupéfait par... voilà, c'est un discours fondateur. Vous parliez des discours de Clémenceau sur la colonisation. Voilà, on pourrait relire ce discours. Et si vous voulez, ce sont des sujets qu'il a évités parce qu'il a peur. Moi, je le dis franchement, je dis c'est un acteur et j'ajouterai que c'est un acteur qui a peur. Comme s'il avait peur des Français. Pourquoi ? Mais de temps en temps, les Français, ils acceptent l'autorité. Regardez, je vous donne ce petit exemple tout simple et tout bête. Gabriel Attal, quand il est ministre de l'Éducation nationale, a résolu un problème qui était en train de se poser partout dans les lycées français, qui était le phénomène de l'abaya. Et c'était, bon, les islamistes avaient trouvé cette espèce de symbole, comme ça, pour planter un coin comme ça dans la laïcité. Et brusquement, quand il est ministre de l'Éducation nationale, vous vous souvenez, il décide, il supprime l'abaya. Je pense qu'il n'en avait pas parlé d'ailleurs à Emmanuel Macron avant. Bon, sursaut de popularité. Et surtout, l'abaya, c'est fini. C'est-à-dire, ce qui montre très bien que la France, elle accepte l'autorité. Elle est dans l'ironie, vous avez raison. Et puis, il y a toujours le côté gaulois réfractaire. Mais en même temps, la France, elle aime que le président préside et qu'il décide.
J'aimerais vous répondre, Alain Finkielkraut, sur ce que vous avez dit, parce que alors moi, je m'inscris complètement en faux dans cette idée, même si il a pu, lui, au début, laisser penser ça. Il est évidemment responsable, naturellement, des jugements qui sont portés sur lui. Mais c'est des conversations que j'ai eues avec lui. D'ailleurs, une fois, je lui ai parlé de son libéralisme, un peu anglo-saxonne. J'ai vu, à sa réaction un peu silencieuse, que ça ne lui avait pas plu. De mon point de vue, et je crois que ça se vérifie, si on fait un peu d'histoire. Bon, en France, depuis la Révolution, il y a deux tendances au sein du camp non-royaliste qui s'affrontent. Ce sont d'un côté ce qu'on appelle les libéraux, donc en fait des gens qui pensent que la démocratie est un petit peu une forme d'oppression de la majorité, qui préfèrent se battre pour la liberté de l'opinion et la liberté d'être, plutôt que pour la présence de la politique partout. Globalement, qui pensent que la politique, ça va être une petite chose d'administration et qu'elle n'est pas là pour s'insérer dans la vie quotidienne des Français et gérer le destin des individus. On fait nation avec l'économie. Vous avez raison, France, c'est ça. De l'autre, il y a les républicains. Alors, dans le camp des libéraux, je mettrais Constant, Guizot, par exemple. Et chez les républicains, je mettrais Gambetta. Vous voyez, typiquement un républicain assez typique. Qui les républicains, qui, eux, ont une conception assez sociale de la démocratie, naturellement, pour qui le fait majoritaire, bien qu'oppressif, a du sens, mais en revanche, qui pensent, eux, que la politique doit être partout. Elle doit régir la vie des individus, pas comme une tyrannie, mais on a besoin de... La politique est là pour donner du sens à l'action collective et à l'action individuelle. Je pense résolument qu'Emmanuel Macron, alors ça vraiment, et ça me paraît clair, bien sûr, Emmanuel Macron pense que la politique doit être partout. Il ne l'a pas dit en tant que tel, mais enfin, regardez, exemple, la multiplication des sujets mémoriels, des journées de mémoire, de panthéonisation. Je pense qu'Emmanuel Macron va battre le record de François Mitterrand, qui était de 7, si je me souviens bien, panthéonisation. Emmanuel Macron est à 5 effectifs, il y a des chances que ça dépasse ce score-là. Tout montre qu'Emmanuel Macron veut un discours collectif et très politique au sein de la société.
Alors, un discours collectif, mais de quelle nature ? Vous avez parlé, Franz-Louis Gisbert, donc de la décision de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, d'interdire l'abaya.
Décision qui est très bien passée, alors qu'on a annoncé une catastrophe.
Si oui, elle est très bien passée. Mais justement, quelle est la continuité d'Emmanuel Macron en matière de politique éducative ? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, veut non plus réformer l'école, elle vit depuis 50 ans sous le joug, si on peut dire, des réformes qui l'ont progressivement ruiné, il veut refonder l'école, avec un discours très républicain. Bien sûr. Moyennant quoi, il est remplacé par Pap Ndiaye, qui est plutôt wokiste, en tout cas, qui est aux antipodes de Jean-Michel Blanquer. Et puis, Gabriel Attal interdit la baya et veut instaurer les groupes de niveau. Parce qu'avec le collège unique, le niveau, effectivement, s'est effondré. Tous les élèves sont mis dans les mêmes classes et on aligne les cours sur les plus mauvais pour ne pas les laisser sur le bord de la route. Moyennant quoi, le niveau s'effondre, les élèves favorisés ont des leçons particulières ou vont dans les établissements privés et sous prétexte d'égalité, l'égalité des chances est de plus en plus faible en France. Eh bien, que se passe-t-il ? Elisabeth Borne, ministre d'Éducation, refuse groupe de niveau, parce que niveau, c'est sélectif, discriminatoire, fait les groupes de besoin, et maintenant, c'est fini. C'est fini. Donc, il n'y a pas de continuité dans la politique éducative, alors que ce devrait être le chantier prioritaire de tout président, de quelque bord qu'il soit. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une certaine frustration. On ne sait jamais où on en est avec le président du en même temps. François-Olivier Gisbert.
C'est ce qui fait la différence entre Arthur et moi, même si on a, je pense, exactement la même vision de la France. Moi, je crois pas beaucoup au discours. C'est peut-être parce que je suis journaliste et j'ai entendu beaucoup de discours.
Je sais que
ça correspond souvent à pas grand chose. C'est-à-dire, c'est très souvent démagogique ou c'est pour caresser une partie de l'électorat avant d'en caresser un autre. Enfin, bon, bref. Et ce que je veux, c'est des actes. Et là, Alain Finkielkraut rappelle simplement quelque chose d'essentiel, qui m'a traumatisé littéralement pendant ce mandat de Emmanuel Macron, c'est qu'on a eu un très bon ministre de l'Éducation nationale. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, mais c'est quelqu'un qui faisait un travail de fond. On sait que les résultats d'une politique d'un ministre de l'Éducation nationale s'ajustent 5 ou 10 ans après. 5 ans, c'était très court. Et tout de suite, effectivement, il est remplacé par quelqu'un qui est sur une ligne exactement inverse, et qui en plus n'était pas formaté pour ça, d'ailleurs la preuve, il n'a pas duré très longtemps. Bon, en fait, c'est typique, c'est-à-dire d'un président qui s'amuse, qui décide une politique et puis après une autre, totalement contradictoire, mais au fond, il n'y a pas de ligne. Ce qu'on souhaite, si vous voulez, quand on élit un président de la République, c'est qu'il y ait des actes. Vous voyez, les discours sur la réindustrialisation, mais combien il y en a eu ? Mais la France continue à se désindustrialiser. Et il y a un vrai souci, vous savez très bien que le grand problème de la France, c'est que les entreprises sont fiscalisées comme nulle part ailleurs, quoi. Ils sont littéralement massacrées fiscalement. Et ça, bon, il a fait quelques petits efforts et puis après, il a arrêté. Parce que, et finalement, ce n'est pas un président qui, tel De Gaulle, enfin, on a tous la nostalgie de De Gaulle aujourd'hui, surtout quand on voit où en est le pays aujourd'hui, qui fait un peu le contraire, enfin, qui essaie de bloquer l'espèce de mouvement naturel vers lequel va ce pays. Parce que si ça continue comme ça, vous savez très bien qu'on peut s'interroger sur ce que sera la France dans 10 ou 20 ans. Les choses se sont accélérées au cours de ce mandat, très clairement, et dans le mauvais sens.
Alors, justement,
Arthur Chevalier.
Une chose qu'on oublie très souvent à propos d'Emmanuel Macron, et ça me frappe beaucoup sur les plateaux télé, où on l'oublie immédiatement, enfin quand je dis plateau télé, c'est là où on commente, quoi. On oublie qu'Emmanuel Macron va bientôt être là depuis 9 ans. C'est une éternité renforcée par l'effet des réseaux sociaux, de l'actualité permanente. Bon,
ça a toujours été le cas. Hein. Je citerai dans un extraordinaire article du Figaro d'Émile Zola, la fin du 19e, où il dit voilà, on n'en peut plus. Cette actualité change tout le temps.
C'était
les journaux,
pas. C'était de toute façon pas mon.
C'est pas la faute aux réseaux sociaux, quand même.
Je suis pas en train de dire que c'est la faute de qui que ce soit. Je dis que Emmanuel Macron est là depuis 9 ans et que 9 ans, la France change énormément. Emmanuel Macron, il a beau être président et lui-même, il est président d'une France qui change. Lui-même est un individu, et vivre c'est changer. Hein, c'est Théophile Gautier qui le dit, c'est pas moi. Donc Emmanuel Macron n'est pas étranger à ça, et pour sa personne, et pour le rapport qu'il entretient au pays. Simplement, le décor change, et donc lui change. Il sent bien que ce qui était vrai lundi n'est pas forcément vrai jeudi. Je pense que si on essaye de chercher une unité dans le rapport d'Emmanuel Macron à la jeunesse, à l'effondrement du niveau, à comment est-ce qu'on forme cette France de demain pour qu'elle continue. Nous en revenons à ce que nous disions au début de cette émission. Son obsession, c'est la cohésion nationale. Et ça répond beaucoup à ce que vous avez dit et pointé, à mon avis, pour certains points à très juste titre. Emmanuel Macron, on aurait pu penser, après sa réélection qui a été faite par un électorat de droite, on aurait pu penser qu'il aille vers la droite et vers les demandes de la droite aujourd'hui, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'éducation aussi. Il ne l'a pas voulu. Une chose que, d'un point de vue politique, je ne m'explique pas. Mais en revanche, quand il parle de son rapport à sa fonction, c'est très clair. C'est-à-dire que, pour lui, son métier, ça n'est pas d'ajouter à la division, c'est d'ajouter à l'unité. Et ça a l'air d'être une blague, ou quelque chose d'un peu, un mot, comme vous dites, artificiel, un petit discours pour plaire. Oui, mais ça n'est pas le cas. Et ça se traduit, si vous regardez dans le détail, dans beaucoup de choses. Par exemple, bon, lui, son obsession, c'est de faire la cohésion de la jeunesse par l'armée. Vous voyez, parce qu'il pense que c'est d'actualité. Il pense que sur la question israélo-palestinienne, son rôle n'était pas de rajouter au bras zéro, mais d'apaiser les choses, vous voyez. Voilà, c'est son rapport aux choses.
Ouais, alors, justement, préserver l'unité nationale. Mais là, je dois vous interroger l'un et l'autre sur un événement qui a sidéré tout le monde, la dissolution. L'Assemblée nationale, du fait de la dissolution, est devenue un lieu de désordre permanent. Donc, en guise de cohésion, on a l'affrontement, les injures, etc. Comment expliquer la décision du président de la République ? Faut-il chercher dans sa psychologie ? Quel bilan, justement, faites-vous de cette dissolution l'un et l'autre ? François-Olivier Gisbert.
Le bilan est évidemment catastrophique. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a la première, bon, c'est une décision stupide. Voilà, qu'il a prise comme ça. Moi, je crois pas. Je pense qu'il y a des arrière-pensées. Et il y a une arrière-pensée évidente qui est qu'il va se dire, il a dû se dire, bah c'est peut-être une manière d'amener le Rassemblement National au pouvoir, parce que on pouvait penser effectivement que le RN avait de quoi avoir une majorité absolue ou presque. Et puis ensuite, bon, ça durera un an, je dissoudrai et je terminerai en beauté. Voilà, moi c'est un peu ça ma version. D'ailleurs, on l'a vu parce que quand il y a eu cette espèce de cordon sanitaire inepte qui a été fait contre le RN pour en fait favoriser LFI, on a vu que des responsables de la majorité comme Gabriel Attal avaient soutenu ce cordon sanitaire et que le président de la République en était mari. Donc,
oui, ça
veut dire quand même
qu'il en a voulu à Gabriel Attal.
Il en a voulu à Gabriel Attal beaucoup pour ça. Et donc, d'une certaine manière, voilà, il était pris un peu, disons, c'est du flagrant délit, hein. Je pense que là, il y avait cette arrière-pensée. Et je veux dire, on ne joue pas avec la France. Et si vous voulez, j'ai souvent le sentiment, quand on regarde avec vraiment, je vous assure, Arthur, je regarde les chiffres. Je comprends rien. Il y a sans arrêt des discours sur ci, sur cela. Mais un président, ça, vous savez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que ça, c'est un problème psychologique d'ailleurs. Il veut tout faire. Il veut tout ramener à lui.
Comme beaucoup.
Non, c'est pas vrai. Regardez De Gaulle, il présidait, le Premier ministre gouvernait. Non. Et puis, les grands hommes, ils délèguent. Et lui, il a toujours cette volonté de tout ramener à soi. Et donc, effectivement, on pouvait pas avoir, dans ces cas-là, des gens remarquables qui vous entourent, puisque vous ne pouvez pas leur déléguer quoi que ce soit. Et donc, dans ces cas-là, vous avez ce que nous avons, une classe politique de plus en plus atone, composée de zombies, de espèces de personnages, enfin, un peu ridicules. Quoi, ces ministres qui succèdent, donc personne ne connaît les noms.
Oui, enfin, le cornu n'est pas tout à fait un zombie.
Ah oui, tout à fait. Ben, je le mets à part.
D'accord. Ah bon, très bien.
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être le premier ministre qu'on peut mettre à part. Enfin, il y avait Gabriel Attal aussi, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui a aussi de l'avenir, mais le cornu également.
Très bien. Arthur Chevalier.
Sur la dissolution, il se trouve que c'était le hasard de la vie, mais j'étais avec le président 48 heures avant la dissolution, dans rentrée de Normandie, d'ailleurs. Enfin, avant les élections européennes qui ont donc provoqué la dissolution. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que tout le monde a peur de Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, qu'elle arrive au pouvoir. En France, tout le monde pense qu'elle va y arriver, quoi. Sauf vous. Et le président de la République me dit, de mémoire, hein. J'ai pas dit que je trouvais ça crédible. Je dis que si rien ne change, oui, elle va y arriver. Sur le moment, j'ai pas fait gaffe. Pour le dire honnêtement. Puis après, quand deux jours après, il y a eu les dissolutions, alors là, je fais de l'interprétation un peu téléologique, évidemment. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Ce que je pense, c'est qu'Emmanuel Macron est un être beaucoup plus
intelligent. Méfiez-vous de ce que disent les politiciens.
Je pense que Emmanuel Macron est un être assez intuitif. Elles sont pas forcément bonnes, les intuitions, mais il fonctionne à l'intuition. Et je pense qu'il a eu l'intuition de ce changement qu'il fallait faire. Il y avait sûrement une part de chaotique là-dedans, je dis pas le contraire, mais il y avait une intuition de ce changement, un peu comme un personnage de Dostoïevski, qui sent les choses, voilà, on va là parce qu'on va là. Il y a un appel de ce côté-là. Il ne s'est pas senti coupable de provoquer un fait démocratique. Après tout, il a provoqué des élections, pas un coup d'État, si vous voulez. Et après, cette assemblée, elle n'a pas réussi à se reconstituer. Moi, je continue à dire que c'est invraisemblable qu'on accuse une assemblée qui ne veut pas gouverner, accuse le président de ses propres échecs. Enfin, je veux dire, là, pour moi, c'est une aberration rhétorique totale. Et j'ajoute autre point. La première sortie officielle d'Emmanuel Macron après la dissolution, c'est Colmar, au mois de janvier. Il a dissous avant l'été. Et donc, bon, j'y étais. Et là, il y avait 10 000 personnes. Il y avait un défilé militaire, très commémoration Seconde Guerre mondiale, machin. Et j'ai bien senti que dans l'avion, c'était un peu fébrile dans ces équipes, quoi. On savait pas trop ce qu'on allait trouver. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Et j'ai été stupéfait de voir que les gens... alors, il y a le réflexe légitimiste en France. Hein, on voit le président, même si on vote pas pour lui. Bah, on est sympa, bien sûr. Mais les gens, un niveau de vulgarité vis-à-vis de la députation nationale qui était fou. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dû faire un cours de démocratie représentative à une dame qui hurlait. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas certain, quelle que soit l'impopularité d'Emmanuel Macron, que la dissolution ait en tant que telle porté atteinte à lui, à sa fonction, et que les gens le rendent à ce point responsable juste d'une convocation d'élection. Et c'est là où je vous trouve pas...
Enfin, une convocation d'élection juste après d'autres élections. C'est ça qui a surpris. Oui, enfin, résultat des européennes...
Significative.
Il dit nouvelles élections, alors que le peuple, il faut consulter le peuple, alors que le peuple venait d'être consulté.
C'est une décision, je suis désolé de vous le dire, de Machiavel de poche. Ben oui,
il y avait une part de
ça,
mais pas que de
ça. Il y avait une part de ça, parce que, excusez-moi, le résultat des européennes, c'était triomphe RN, donc voilà, je dissous, ben ce sera re-triomphe RN, ils seront au pouvoir, ils auront des problèmes, je dissoudrai à nouveau et je terminerai en beauté.
Oui. Ah,
mais c'est aussi bête que ça. Et ce sont pas avec des calculs de ce type qu'on préside.
Je pense pas que c'est les calculs. C'est, si
on peut peut-être gouverner. Oui, mais enfin, c'est, en gros, c'était ça, vous le savez très bien.
Oui, mais il faut dire aussi.
D'ailleurs, vous le reconnaissez vous-même, d'ailleurs.
Oui, il faut dire aussi que, comme le montrent Domnach et Safran dans leur livre, que le cauchemar de Macron, c'est en 2027 d'être accompagné par Marine Le Pen ou Jordan Baldera sur le perron de l'Élysée. Et donc, peut-être pensait-il que...
Éviter ce cauchemar.
Voilà. Ils arriveraient au pouvoir, ils se discréditeraient, et ils éviteraient ce cauchemar. Mais, je voudrais aborder maintenant une autre question. c'est-à-dire la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, son bilan est si négatif ? Après le déclenchement de l'opération militaire spéciale en Ukraine, Emmanuel Macron a presque joué la carte russe. Il fallait pas humilier l'Ukraine. Il a pratiqué une diplomatie hôtelière en recevant Poutine au fort de Brégançon. Et puis après, il a compris. Et il a compris. Et donc, avec les autres grands dirigeants européens, il a choisi son camp. L'aide militaire fournie par les puissances occidentales a empêché l'absorption totale de l'Ukraine par la Russie au nom de la lutte, il faut s'en souvenir, contre le nazisme LGBT. Ça devrait peut-être être porté à son crédit, parce que on peut se demander ce que nous éprouverions aujourd'hui si la République française était dirigée par Jean-Luc Mélenchon ou Philippe de Villiers. Et puis il y a aussi la reconnaissance de l'État de Palestine, que beaucoup n'ont pas comprise en disant que c'était pas le moment, qu'il était trop tôt. Moi, je me demande si ce n'est pas trop tard, parce que ce qui importe pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, c'est une séparation nationale. Sinon, la promiscuité meurtrière peut être catastrophique pour les deux peuples, vraiment.
Il y a déjà une promiscuité, excusez-moi, il y a quand même beaucoup d'Arabes, beaucoup de Palestiniens qui vivent en Israël.
Oui, mais
c'est citoyens très... israéliens, et d'ailleurs, qui ont pris le parti d'Israël
contre Gaza. Mais Israël, c'est pour une majorité juive dans un état du monde. Si Israël annexe la Cisjordanie et Gaza, les Juifs deviendront minoritaires. Et donc, on peut se dire, pas forcément un État palestinien, peut-être une confédération jordano-palestinienne, mais moi, j'ai compris la décision d'Emmanuel Macron, ce sentiment d'urgence qui pouvait l'animer, cette manière de dire l'annexion, la communauté internationale n'en voudra jamais. Et là, peut-être, le président est-il été à la hauteur des événements, François-Olivier Gisbert ?
Sur l'Ukraine, je suis d'accord avec vous. Sur l'Ukraine, je trouve que globalement, et puis d'une certaine manière, même si on pouvait mettre ça sur le compte d'une certaine infantilité, il fallait donner sa chance à Poutine. Il aurait lu le livre de François Hollande, il aurait lu que Hollande avait tout compris sur Poutine dès leur première rencontre. Mais Hollande n'est pas fait tout à fait du même bois que Macron, c'est-à-dire je pense que Hollande, il y a une forme de... Enfin, il comprend mieux, quoi. Et c'est clair que la description qu'il fait de Poutine est absolument imparable. Et puis je suis d'accord, sur Israël, enfin ça peut se discuter, parce que le problème aussi c'est l'antisémitisme en France.
Et bien sûr.
Là-dessus, il a été au-dessous de tout quand même. Emmanuel Macron, désolé de le dire, mais au-dessous de tout, c'est même inimaginable.
Par le fait de ne pas avoir participé à la marche.
Non, mais c'est pas ça. C'est tout globalement de ne pas réagir. Il a peur, il laisse faire d'autres, mais il a peur. Il sait qu'il a des coups à prendre. Il sent la montée de l'antisémitisme. Il ne veut pas lutter contre ça. Je pense que vous auriez n'importe quel autre président, Mitterrand, Chirac, je me souviens très bien, Sarkozy et même Hollande, ils auraient réagi par rapport à tout ça. Lui, il fait le mort.
Alors, il a quand même un peu réagi, pas beaucoup.
Et le sujet, il est autre. C'est-à-dire que je pense que sur la politique étrangère, s'il y a des choses effectivement qu'on soutient, il y a aucun problème. Et puis c'est le président, d'une certaine manière, il représente encore à peu près le pays. Mais c'est un pays de plus en plus abîmé. Il a abîmé ce pays qu'il faut réparer aujourd'hui. Il a abîmé économiquement. Et aujourd'hui, l'économie se venge. Quand vous avez des finances publiques qui sont gérées comme sont gérées nos finances publiques depuis qu'il est au pouvoir, notamment depuis 2017 et même avant. Ça a commencé avant, bien entendu. Mais enfin, ça s'est pas arrangé. Bien au contraire, ça s'est accéléré. Quand on voit notre niveau d'endettement, etc., tout le monde se marre. Et c'est-à-dire, regardez comment le chancelier Merz le traite. Et d'ailleurs, il le maltraite également, Merz. D'ailleurs, il nous fâche avec tout le monde. Mélanie, il critique son élection, enfin, quand elle arrive au pouvoir. Et puis après, bien entendu, elle se venge. Et après, il fait, je veux dire, c'est une politique de cours d'école. Vous voyez ce que je veux dire? L'économie, c'est fondamental. Pour avoir une politique étrangère, ça, De Gaulle l'avait très bien compris, il faut avoir une économie qui tourne.
Alors,
je regarde votre question, du coup, Alain Finkielkraut, sur la politique internationale, naturellement.
J'étais sur sa question.
Non, j'ai pas... Mais oui, bien sûr, François-Olivier Gisbert.
Tout va bien. Il y a un truc qui est clair. Hein, vous vous souvenez du très beau livre d'André Malraux sur le général de Gaulle, Les chaînes qu'on abat.
Génial.
Il y a cette phrase qui, pour moi, résume toute la France depuis 1000 ans, entre guillemets. c'est que la France vit par sa réputation. Hein. Ça n'a pas commencé sous la Ve République ni avec le général de Gaulle. C'est un pays qui vit par sa réputation, toujours plus grande qu'elle ne l'est pour de vrai. Voilà. Et elle vit par les échos de la liberté du monde qu'elle représente, quoi, entre guillemets. Emmanuel Macron, je crois, en a une conscience assez forte. Et donc, ne pas sortir de l'histoire, pour lui, c'est ne pas rater les tournants de l'histoire. Qu'aurait été la France si elle n'avait pas réagi à ce qui s'est passé en Ukraine? Que restait-il de sa place dans le cours de l'histoire? Et d'ailleurs, vous parlez de la Palestine.
Je pense
vraiment que la réflexion qui a présidé à cette décision, c'est que dans ce qui se passe en Palestine, la France, pour agir à la hauteur de sa réputation et de son niveau depuis plusieurs siècles, devait effectuer cette reconnaissance et pas comme on lui a demandé de le faire, entre deux portes, avec un micro, est-ce que vous reconnaissez? Non, non. À la tribune des Nations Unies, dans un discours significatif et argumenté. J'ai trouvé que la méthode était de ce point de vue-là assez sophistiquée et à la hauteur du moment historique. Dernier point, je crois. Alors bon, sur la guerre en Ukraine, au début, c'est vrai qu'il s'est trompé, mais ça, c'est faut admettre quand même que tous les pays européens se croyaient en temps de paix et pensaient que Poutine essayait de faire de la diplomatie avec des coups de pression, ce qui n'était pas le cas. Ils n'étaient pas encore en temps de guerre. Bon, ça a été l'erreur de tout le monde, c'est vrai, au début, particulièrement Macron, quoi.
Oui, mais alors, justement... François-Olivier Gisbert disait qu'il fallait à la France, même pour avoir une politique étrangère crédible, il fallait que la France ait une économie forte. Et la France s'endette toujours davantage. Mais elle a commencé, il y a déjà un certain temps, à s'endetter pour financer les retraites, la santé, la solidarité. Nicolas Dufourcq, dans son livre remarquable, La dette sociale de la France, montre le rôle qu'a joué Giscard d'Estaing dans cet infléchissement de la politique économique et sociale.
Commence là, mais je suis désolé de vous dire que ça s'accélère aujourd'hui. Ça n'a pas de commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui.
Non, ça s'accélère aujourd'hui, mais Emmanuel Macron a essayé la réforme des retraites. Et cette réforme, finalement, a été suspendue. Et surtout, elle a été très impopulaire en France, ce qui est assez étonnant, parce que une réforme des retraites a été acceptée en Allemagne, au Danemark, alors qu'elle a été faite par la social-démocratie allemande. On s'oriente au Danemark vers une retraite à 70 ans. Et là, il faut mettre en cause non seulement les politiques, le président de la République, mais l'opinion, la population française. Parce que j'ai souvenir qu'il y a quelque temps, il y a peu de temps même, une députée d'Ensemble pour la République a été couverte d'injures dans des lettres absolument terribles parce qu'elle soutenait la réforme de retraite. Un correspondant l'a menacée de mort. Elle a dit qu'il a, tué aussi ces bâtards. Donc, que faire avec une opinion aussi remontée?
Mais c'est comme ça partout. Je suis désolé. Non, mais attendez. Regardons un peu autour de nous. Regardons ce qui s'est passé. Regardez les extraordinaires réformes de Gerhard Schröder, par exemple, en Allemagne, qui ont vraiment littéralement relancé économiquement l'Allemagne. Il y avait des manifestations monstres d'un million de personnes. Il y a eu même 400 000 adhérents du Parti social-démocrate qui ont quitté le parti pour protester contre sa politique. Et puis, je ne parle pas des manifestations contre Margaret Thatcher en Grande-Bretagne quand elle prenait ses mesures, ou contre Felipe González également, qui prenait des mesures genre Smith John autrefois en Espagne, qui était lui-même socialiste. C'est-à-dire que quand on gouverne, forcément, les Français ne sont pas toujours d'accord. Mais les Français, il faut leur parler aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un discours clair sur la réforme des retraites? Il y en a eu un. Mais oui, parce que je l'ai vu une fois à la télé, où c'était d'ailleurs très brillant. Mais il faut le faire régulièrement, il faut le faire tout le temps. Il y a un travail de pédagogie à faire qui n'a pas été fait. Et puis ensuite, il faut accepter de temps en temps de gouverner contre des manifestations monstres comme l'ont accepté tous les grands dirigeants européens qui ont fait avancer leur pays.
Bon, on peut pas accuser Emmanuel Macron de choses aussi contradictoires. Soit c'est un afro-libéral.
Je l'accuse pas d'être afro-libéral.
Soit c'est un grand libéral qui pense que l'argent va tout régler. Soit c'est un type qui dépense trop d'argent.
J'accuse pas d'être un afro-libéral. Voilà.
Mais donc, moi, je pense, déjà pour commencer, c'est qu'Emmanuel Macron...
J'accuse de ne pas avoir de consistance.
...croit beaucoup en la chose publique, et ce qui explique certaines de ses réactions budgétaires, je dirais. Par exemple, le Covid, ça a été un choix contestable, sans doute, mais ça a été un choix, disons, quasiment politique, d'ouvrir les vannes pour... Oui, allez-y.
Alors, juste un mot, c'est sur le Covid, c'est un truc toujours des macronistes, c'est à cause du Covid, mais je vous rappelle quand même...
Non, j'ai pas dit que c'était à cause du Covid, j'ai dit que le choix était signifiant.
Oui, mais l'aide qui a été décidée à ce moment-là, c'était très bien, notamment l'aide aux entreprises. Vous avez eu des mesures du même type qui ont été prises en Allemagne, mais dès que c'était terminé le Covid, vous regardez les dépenses publiques, en Allemagne, elles ont baissé drastiquement. En France, ça a continué.
Mais attendez, que l'Assemblée que nous avons en ce moment ne favorise pas...
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
François Bayrou,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Peut-être pour se sauver à la fin, mais le dernier mois de sa présence à Matignon, en tant que Premier ministre, nous a fait toute une histoire sur il faut baisser la dette, il avait raison.
Non,
c'est ce qu'il dit depuis 30 ans.
Dès qu'il arrive, au pouvoir, attendez.
Attendez, j'en dis du bien, France. On n'est pas en désaccord, absolument. Mais en disant, moi, je ne prendrai pas l'engagement de transmettre une telle charge de la dette aux générations futures, ça serait scandaleux. Il avait raison. Emmanuel Macron, à cette époque, s'est prononcé là-dessus. Il a dit, je suis d'accord avec ce que dit le Premier ministre et je suis d'accord avec cette politique.
Il ne pouvait pas dire le contraire.
Peut-être. En tout cas, ce que je vois, c'est que quand il a été interrogé...
Comme président, il aurait pu le dire.
Les mots sont signifiants aussi. Quand il a été interrogé sur la question, il n'a pas été contre ça. Maintenant, avec cette Assemblée, admettez que c'est un peu compliqué d'engager la France
de faire quoi que ce soit
dans une réforme budgétaire de cette ampleur.
Alors, non seulement vous n'accusez pas Emmanuel Macron d'être un ultralibéral ou un néolibéral, François-Olivier Gisbert, mais vous avez dans Tragédie française une phrase que je ne résiste pas à l'idée de citer. Alors qu'avec les dépenses publiques qui représentent 58% de la richesse nationale, nous vivons en fait sous la tendre férule d'un communisme mou. Voilà ce qu'on appelle l'ordre néolibéral. Alors maintenant, j'en viens pour finir à la psychologie. Parce que tout le monde dit que le vrai problème de Macron, notamment avec les dissolutions, mais aussi d'autres moments symptomatiques, comme par exemple la réception de 60 intellectuels un jour à l'Élysée, à la fin du grand débat national autour des Gilets jaunes, 60 intellectuels défilent devant Emmanuel Macron, disent quelques mots, Emmanuel Macron leur répond, ça dure jusqu'à 2h du matin... Tout le monde parle donc de son narcissisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ou est-ce que c'est trop psychologisé notre affaire ? François-Olivier Gisbert.
Forcément, par fonction, par métier, moi je ne recule pas devant la psychologisation. Et bien entendu, c'est un narcisse. Mais vous savez, les autres présidents, ils sont égotiques. Puis je vous renvoie à la célèbre phrase de Georges Pompidou que j'adore citer, qui est « Les présidents... » ils sont tous fous. Ils sont soit un peu fous, soit très fous, soit trop fous. Mais de toute façon, à la fin, ils sont tous fous. Donc, ça, regardez autour de nous. Alors, peut-être que c'est pas des présidents de la République. Alors, le chancelier Merz, ça a l'air tout à fait normal. Ou Petersen, la première ministre danoise, ça a l'air aussi tout à fait normal. Ou même Giorgia Meloni a l'air normal. C'est vrai que président élu au suffrage universel, c'est toujours un peu bizarre. Regardez d'ailleurs Trump, c'est tout à fait révélateur. Bon, il y avait Biden avant qui avait l'air normal, mais là, on est dans un cas presque extrême. Donc, voilà, on a le droit de psychologiser, quand même.
Alors, je pense que le...
Est-il narcissique, Arthur Chevalier ?
La réponse est non, il est orgueilleux. Il est orgueilleux, mais pour moi, l'orgueil, c'est le point commun de tous les individus qu'on a gardés dans notre galerie d'histoire de France. Quel est le point commun entre Louis XIV, Clémenceau, Napoléon Bonaparte, le général de Gaulle?
Ah oui, parce que vous ne citiez pas de Gaulle.
Non, ce que je veux dire...
Jamais.
Ah bon, je cite. Le point commun de ces grands hommes, le terme est évidemment artificiel, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que c'est la guerre de Hollande de Louis XIV pour une question de principe. C'est le général de Gaulle avec Roosevelt, président américain. D'accord. C'est naturellement Emmanuel Macron, où à la fin, Poutine se moquant de lui... disant maintenant ça suffit, ce sont des êtres orgueilleux. La France est un pays orgueilleux et elle a, pour reprendre la phrase de Talleyrand, qu'une seule façon d'exprimer son désaccord, c'est de dire non. Voilà. On dit non et c'est à la fois une théâtralité, un acte politique et un engagement vis-à-vis de l'histoire de dire non. Et je pense qu'Emmanuel Macron a vraiment ce point commun, mais étant orgueilleux, comme Louis XIV, comme Clémenceau, comme Napoléon Bonaparte, il fait bénéficier à ce pays de cet orgueil qui est un orgueil protecteur.
Et vous ne pensez pas que s'il y a quand même... une forme d'amour de soi qui va trop loin. Je citais ce débat avec un certain nombre de maîtres ou d'intellectuels, c'était très étrange. Hein. C'était vraiment très étrange. Pourquoi voulait-il faire ça? Sinon, pour prouver qu'il avait le dernier mot, qu'il était le plus intelligent de tous. Ça s'est terminé à 2h ou à 3h du matin. Tout le monde était exténué, sauf lui. Il aurait continué toute la nuit.
Et c'est alors ça, c'est un problème. Il ne veut jamais aller se coucher, ça c'est encore une autre question. Mais pour ce qui concerne cette partie de sa personnalité, moi, je ne l'ai jamais constaté, voire même, je dois dire, plutôt le contraire, avec une chose qui m'a beaucoup frappé. Quand vous êtes à table avec Emmanuel Macron, avec 10 personnes, quoi, un truc plutôt privé, les gens parlent entre eux. Ce qui, moi, les dîners que j'ai fait avec des, soit anciens présidents de la République, soit ministres de haut niveau, machin, le principe, c'est qu'en général, un homme politique de premier plan, personne ne parle entre soi et il y a une personne qui parle. Moi, j'ai remarqué ça, qu'en fait, Emmanuel Macron...
Non, parce que ça dépend des présidents.
Vous avez raison.
François Mitterrand faisait parler, au contraire, d'ailleurs, c'était même un peu embêtant parfois. Parce
oui,
que,
une méthode.
Bon, on venait, oui, c'était une méthode pour ne pas parler, oui, d'ailleurs. Voilà, donc il vous posait beaucoup de questions, puis à la fin, on sortait.
Mais j'ai pas
qu'il m'a dit. Et puis, non, mais c'est une technique.
J'ai jamais l'impression que c'est quelqu'un qui monopolise la parole, qui parle que de lui. J'ai plutôt l'impression qu'il parle tout le temps de... Quand il parle de lui, il parle de sa fonction.
Mais c'est
dans
pas ça,
la
le
France,
narcissisme,
c'est plutôt
le narcissisme, par exemple, vous savez.
Dans ce cas, c'est une sorte de narcissisme mémoriel, peut-être.
Oui, mais c'est aussi la jouissance de la nomination, par exemple. Hein. Ça, c'est pour lui, c'est quelque chose de très important, les nominations. Bah, c'est quelque chose d'ailleurs de très français.
D'ailleurs, c'est très important.
Il suffit de lire les pages de Saint-Simon sur Louis XIV.
Louis XIV,
c'était son activité principale. On a l'impression que c'est d'ailleurs aussi l'activité principale.
Macron est un Français archétypal de ce point de vue-là. Beaucoup de choses, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des conclusions de ce débat. Et par ailleurs, des conversations sur Macron et de ce qui en est dit, c'est qu'en fait, Macron a toutes les qualités et tous les défauts, entre guillemets, d'un Français. Il est très Français et dans l'exercice du pouvoir, très très Français.
C'est pour ça que ça soit peut-être sur l'économie, alors, parce que...
Mais je suis
dommage,
bien d'accord avec
vous. C'est la grande tragédie française aujourd'hui.
Vous savez, pendant la guerre de 100 ans, on a sucé des cailloux et pourtant on a vaincu l'Angleterre.
Bon, bah très bien, C'est une conclusion radicale. C'est une conclusion radicale et peut-être
convaincra les auditeurs.
Bon. Peut-être optimiste.
Enfin, c'est malin, mais à mon avis, c'est pas très efficace.
Bon, très bien. Merci à tous deux. Alors, Franz-Olivier Gisbert, vous publiez Voyage dans la France d'avant chez Gallimard. Chez Gallimard, il y a aussi votre livre où il est beaucoup question de Macron, Tragédie française. Arthur Chevalier, vous avez publié aux éditions du CERF l'histoire à l'épreuve des émotions et vous préparez donc ce livre sur Emmanuel Macron en avril aux mêmes éditions. Sous quel titre ?
Ne sifflez pas Diderot, qui est une phrase qu'Emmanuel Macron a prononcée lors de son dernier discours avant le premier tour de 2017.
Et donc, vous avez aussi participé à un numéro du magazine Causeur sur les années Macron. C'était le magazine du mois de janvier 2026. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Y a-t-il un bon usage de l'intelligence artificielle ?» Mes invités seront Olivier Babot et Gauthier Besse. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Jérôme Casamayou. Vous écoutez France Culture, tout de suite Jean-Noël Jeannonet.